On est dans le trafic avec Marc Bellemare, avocat et ancien ministre de la Justice sous le gouvernement libéral. Comment vas-tu, Marc?
Très bien, toi?
T'as l'air en pleine forme. Tu parlais avec mes collègues, notamment Will D'Olive, ici, que tu as rencontré aujourd'hui pour la première fois.
Ouais.
Impressionné un peu, oui.
Oui,
c'est normal.
Je sais pas si je vais être capable de continuer.
Non, mais c'est parce que vous étiez tout le monde ici des grands fans de football. Je savais pas que t'étais grand fan de football à ce point-là. Puis t'as déjà fait des démarches pour amener une ligue, une équipe de la Ligue canadienne de football
canadienne,
à Québec.
À Québec, oui, oui. J'aurais bien aimé. Puis je pense qu'un jour, ça va se faire. Maintenant, écoute, la Ligue canadienne, c'est une ligue, c'est pas la NFL, là, mais c'est quand même un calibre intéressant, c'est du jeu existant.
Mm.
Et je pense que Québec devrait se mesurer avec Toronto, Calgary, Hamilton, Winnipeg, plutôt que de se mesurer comme on l'a avec la Ligue universitaire, avec des clubs universitaires. Je comprends que des clubs universitaires, c'est intéressant. Mais moi, j'aime mieux la Ligue canadienne.
OK. Puis quel genre de démarche ça impliquait? Qu'est-ce que tu avais fait?
Ben, j'avais rencontré Mark Cahoon, qui était le commissaire de la Ligue canadienne à l'époque avec Jacques Dussault. Et puis, j'avais fait faire des études de marché qui montraient un intérêt certain de la part des gens de Québec pour une équipe de la Ligue canadienne.
Okay.
On aurait pu faire quelque chose d'extraordinaire. J'avais rencontré Larry Smith à Montréal, qui était à l'époque président des Alouettes, un ex-commissaire de la Ligue canadienne, qui, lui, voulait qu'on ait une équipe à Québec et même prononcer des conférences ici.
Il aurait supporté le projet, là.
Ah, bien, tout à fait. Lui, il était président des Alouettes, puis il disait, Marc, on va faire quatre matchs inter-équipe par saison. Alors, deux fois les Alouettes à Québec, deux fois l'équipe de Québec à Montréal.
Un bon vieux Québec-Montréal.
Sauver de l'argent, développer la rivalité, et puis on aurait eu un show extraordinaire. Puis l'avantage avec la Ligue canadienne, c'est que tu peux être pourri pendant 3 ans, puis excellent l'année d'après, tu sais.
Pourquoi particulièrement avec cette Ligue-là?
Parce que le classement est assez mince, hein? Il n'y a pas beaucoup d'équipes.
Mm.
Alors, tu as 4 équipes, 5 équipes par division, S-Ouest, et puis tu peux monter assez vite.
Okay.
Si tu as une bonne séquence de 3-4 gains, là, tu peux aspirer à faire les séries, puis même gagner la Coupe Grey.
Mm. Yeah, Ottawa est rentré dans la Ligue, et deux ans plus tard,
il gagnait
la Coupe Grey, puis gagnait, là.
C'est ça. Et puis, les Alouettes, cette année, j'ai dit ça à mon fils en fin de semaine, ils vont gagner la Coupe Grey. J'ai dit ça, tu sais, mais il dit, voyons, papa.
Mais non, mais on va l'enregistrer.
Les Alouettes ont quand même gagné contre Hamilton.
3 matchs de suite.
À Hamilton, significativement. Ils ont gagné contre le rouge et noir, red and black, j'ai assez ça. Pourquoi qu'il n'y a pas, c'est pas rouge et noir? Pourquoi c'est pas en français sur le chandail, tu sais? Capitale du Canada.
Ouais.
En tout cas, ça, c'est un peu le côté redneck de la Ligue canadienne que j'aime pas, mais ça, c'est, ça va rester. Et puis là, ils ont gagné contre Edmonton, une bonne offensive. Alors, s'ils continuent comme ça, là, ils pourraient avoir du succès, même en série.
Donc, une coupe, mais pas de propriétaire.
Tu parles de moi, là?
Non, les Alouettes.
Oui.
Toujours pas de propriétaire.
Oui, c'est ça. Ils appartiennent à la Ligue canadienne. Mais ça, ça peut arriver.
C'est comme s'ils étaient sous tutelle, là.
Ils le sont, je pense, une forme de tutelle, parce que c'est géré par les gens de Toronto. Mais pour venir à Québec, dans la Ligue canadienne, moi, je comprends pas pourquoi Québec n'est pas dans la Ligue canadienne, alors que Regina est dans la Ligue canadienne, puis que Regina, c'est quoi, 225 000 personnes, tu sais. Puis ils ont un club universitaire, puis ils ont un club de la Ligue canadienne. Winnipeg, c'est une ville du format de Québec, à peu près similaire, 500 000, 600 000 personnes. Puis nous autres, on a un club universitaire. C'est pas assez, là. Moi, je trouve que c'est pas assez. Ça n'a pas de bon sens. Puis en plus, nos kids là, du Rouge et Or de Québec pourraient avoir du succès à Québec.
C'est sûr. Ce serait le délire.
Pourquoi on ne garderait pas notre gang? T'sais? Pourquoi on envoie tout ça ailleurs, à Montréal, puis un peu partout dans la Ligue, on les équipait? On pourrait faire du football francophone très, très, très décent pour une ville comme Québec. On aurait du fun. Puis tu sais, la saison, là, on ferait quoi cette année? Là? On irait voir notre équipe de Québec.
Durant l'été, absolument. Puis les gens de Québec ont prouvé qu'ils aiment le football.
Absolument.
Avec le Rouge et Or, il y a une culture football qui s'est installée à Québec.
Oui, absolument. NFL aussi. Mais là, puis des sondages disent, quand ils sont de ça, ils disent que les gens de Québec sont très intéressés par la NFL, tout ça, mais c'est parce qu'il n'y a pas de club professionnel à Québec. S'il y en avait un, il y aurait un attachement.
C'est vrai?
Oui.
Quel autre sport Marc Bellemare aime-t-il?
Le hockey, évidemment.
Ah oui?
Le hockey, oui.
À Québec, encore.
Ouais, mais tu sais, Québec, moi, je pense que si on avait un club de la Ligue nationale à Québec, tout le monde irait 2 à 3 fois par année.
Mm-hmm.
Mais c'est pas là qu'il y a l'argent, c'est les billets de saison qu'ils veulent vendre.
Oui.
Ouais, c'est ça.
Et moi, j'avais des billets de saison à Montréal pendant 13 ans, à peu près. J'ai arrêté l'année passée, là, parce que j'ai des amours. J'ai dit à mon gars, j'ai dit, quand Bergevin puis Price vont partir, je vais revenir.
Pour vrai? Ah, ouais, ouais. C'est un deal breaker.
C'est ça, c'est
oh
ça.
Boy.
Il dit, ouais, on va voir ça.
Mais il est-tu à Montréal, ton gars?
Oui, parce okay, que quand tu as tes billets de saison au Centre Bell, tu as une espèce de gars là, qui s'occupe de toi.
Une
espèce d'agent là, ouais. Qui s'occupe de toi. Tu n'appelles pas. Tu as un besoin particulier, tu appelles là, puis c'est lui qui va gérer tes affaires. Alors, c'est lui qui te vend ton billet. Et l'avantage, à Montréal, il y avait peut-être dans les estrades, moi j'avais spoté quelques centaines de gens de Québec qui avaient des billets de saison à Montréal.
Okay.
Puis parmi ceux-là, il n'y avait personne qui croyait que la Ligue nationale allait venir à Québec.
Pour vrai?
Ouais.
À
cause des billets, des prix des billets qui sont assez chers. C'est sûr qu'à Québec, ça pourrait être un peu moins cher, parce que même à Winnipeg, c'est moins cher qu'à Montréal. Les billets, ça dépend des villes.
Mais les coûts sont pas moins chers.
Mais c'est parce qu'il faut acheter des billets de saison. Mm-hmm. Les billets de saison, moi, ça me coûtait 12 000 piastres par année, tu sais.
Yo.
Puis quand il était dans les playoffs, ben, c'était un 6 000 de plus.
Mm.
Alors, c'est beaucoup d'argent.
Oui.
Et on à Québec, on se dit, ouais, on veut des. Oui, mais tu vas acheter combien de billets?
Ouais, c'est ça.
On veut puis, c'est ça, c'est parce que les loaners, là, les gens qui achètent 2-3 billets par année, ils sont pas fiables. Les billets de saison, ils sont fiables c'est parce ça. Qu'ils ont payé d'avance. Ils sont peut-être pas assis, mais ils ont payé leurs billets.
Ouais.
Alors, ce qu'il faut pour le club, c'est ce bacon-là. Là, c'est ça qui compte. Puis c'est ça qui fait en sorte que ça marche à Montréal parce que tu as des billets de saison. Parce qu'écoute, il y a eu des matchs l'année passée, là, à la fin de la saison. Là, je pense qu'il y avait peut-être 13-14 000 personnes. Il y a beaucoup moins de monde. Il y a des trous partout. Là. Mais les billets sont vendus. Alors, il s'en fout, le propriétaire. Si ton billet est payé, là, que tu sois là ou pas, il s'en sac. Tu sais, 3-4 hot dogs de moins, là, ça ne change pas la donne. Mais à Québec, c'est ça, je pense, qu'il faut... c'est ça qui regarde combien qu'on va vendre de billets de saison. Si tu peux vendre 7-8 000 billets de saison, là, tu as ta base, je pense. Les autres, ben, c'est des gens qui vont venir ponctuellement. Parce que quand ton club va mal... C'est ça. Il faut que ça marche pareil.
Exact.
Parce que c'est trop facile de dire ça me tente pas d'y aller.
Non.
Cette année, je n'y vais pas. Ben oui, je comprends, mais là.
c'est
faut payer les millions des salaires pareil. Il faut payer le 50-60 millions que
et
ça coûte.
Les loges comparatives sont très importantes aussi.
Oui, c'est ça. Alors, Québec, c'est ça. On n'est pas content de la Ligue nationale, mais eux autres, ils font des sondages. Puis c'est ça qui compte. Puis moi, je pense que à Québec, là. C'est le corporatif et les billets de saison qui crée problème. Remplir ce stade-là. Là.
Je demande souvent à mes invités de faire eux-mêmes leur parcours en disant pourquoi tel jalon est arrivé dans mon histoire. Ça m'intéresse de savoir, Marc Bellemare, là, ça commence où le concept Marc Bellemare dans tes yeux?
Okay.
Puis ça a été quoi les étapes que tu trouves qui ont été déterminantes? Parce que tu sais quand même faire de la politique, tomber ministre, pas rien. Là, maintenant, il arrive quelque chose. Puis... C'est, que c'est le pourquoi qui m'intéresse, Marc, de tout ça. Là.
Ben moi, au secondaire, j'étais pensionnaire. Je suis un gars de Saint-Hyacinthe, je suis pas un gars de Québec. Je suis arrivé à Québec en 78. J'avais 22 ans. J'ai fait mon barreau à Québec, mais tout le reste s'est fait dans la région de Montréal. Alors, j'étais pensionnaire à Granby pendant 5 ans. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme pensionnaire? Je me révoltais.
Oh.
Je me fâchais.
Mm.
Je contestais.
Pour vrai?
Ben oui.
À temps plein, là.
Ben oui, parce que c'était tellement niaiseux, les règles qu'il y avait là, tu sais, la discipline.
Genre, mettons, dans le coin.
Ben, tu sais, la messe tous les matins, la prière, les réunions. Écoute, on était entre 68 et 73, là. Alors, c'était assez rigide.
Mm.
Et moi, je contestais ça. Puis, j'étais puni. Puis, je contestais. Puis, je faisais des mauvais coups. Puis, ça a duré 5 ans.
Ah oui?
Puis, c'est ça. Alors, c'est là que j'ai appris à chialer.
Mais la famille venait de quelle ville, précisément?
Saint-Hyacinthe.
Ah oui, OK. Mais parce que c'est pas à côté, là.
Granby-Saint-Hyacinthe, dans le temps, c'était 45 minutes.
OK.
Ça se fait assez bien.
OK.
Et puis, j'étais pas mal tannant. Fait que là, mon père avait dit, tu vas dans les pensionnaires. Alors, on était toute une gang de tannants. C'était souvent des gangs. Fait qu'on faisait des mauvais coups tout le temps. Et quand j'ai fini le secondaire, je suis allé au cégep. Et j'étais au cégep de Saint-Hyacinthe, qui était un cégep très, très contestataire. On organisait des grèves étudiantes.
À la Limoilou, ici, là.
Ben, écoute. Les deux mamelles de la révolution des cégeps, là,
mm-hmm.
et qui nous ont permis d'avoir les prêts bourses en 74, des grandes manifs là, de 100 000 personnes à Montréal, là, c'était Limoilou et Saint-Hyacinthe qui les organisaient.
Ouais. Ah, ouais.
À l'ouest, c'était Saint-Hyacinthe et à l'est, c'était Limoilou. Et moi, j'organisais des manifs étudiantes, puis on communiquait avec les étudiants de Limoilou pour organiser nos shows, nos marches, puis nos pancartes, puis tout ça. Et je savais même pas c'était quoi Limoilou, tu sais. Il y avait le cégep de Limoilou, ça aurait pu être à Gaspé, ça aurait pu être à Trois-Rivières. Je savais pas c'était où. Je n'étais jamais allé à Limoilou. J'ai connu Limoilou quand je suis arrivé à Québec. Je me suis installé ici en 78.
Pour quelle raison?
Parce que j'avais fait mon cours universitaire à Montréal. Et j'étais un peu tanné de Montréal. J'étais tanné du trafic. Puis Montréal, c'est le fun quand t'as de l'argent. Quand t'es étudiant, t'as pas d'argent. Mm. Puis quand t'as pas d'argent à Montréal, tu peux pas en profiter. Mm. Fait que tu peux pas profiter autant des shows, tu peux pas sortir autant. Je me suis dit, on va aller à Québec. Puis finalement, on s'est installé à Québec et puis j'ai fait mon barreau ici. Fait qu'une fois l'université complétée, ça a été le cégep à Québec. Puis là, je suis ici. Mes enfants sont tous nés ici.
OK. Tu as fait un stage à Québec, tu comprends?
J'ai fait mon barreau à Québec. Ma scolarité du barreau et mon stage à Québec.
OK.
Au gouvernement.
Au gouvernement?
Ouais.
OK.
Et puis, j'avais des contrats, mais j'étais un peu tanné. Le gouvernement, je trouvais que ça bougeait pas assez. Alors, la pratique privée, ça a été une bonne idée.
Ça, c'est tout seul au combat ou avec des associés?
Non, mais j'ai commencé dans un bureau d'avocat qui était axé sur la chose syndicale beaucoup.
Ah.
Défendre les travailleurs. Fait que j'étais dans mon élément parce que moi, j'ai toujours voulu défendre le petit face au gros. Tu sais, moi, mon travail d'avocat, j'ai toujours pris ça au pied de la lettre. J'ai pas d'avocat dans ma famille, moi. Alors, quand j'étais à l'université, j'étais en droit, puis je me disais, bon, ben là, on défend, un avocat, ça défend le petit contre le gros. Puis là, tout le monde riait de moi, puis il disait, ben non, ben non, un avocat, tu vas crever de faim, tu vas se traiter pour les petits, tu devrais travailler pour les grosses compagnies, les banques, compagnies de finances, et les gros lobbies, c'est là qu'est l'argent, tu sais. Mm. Puis moi, je tripais pas là-dessus. Je me disais, non, j'aime mieux défendre les travailleurs.
Ça, c'est le côté contestataire.
Consommateur.
Qui était le jeune aussi.
Ouais, c'est ça, le bipède, là. Le bipède qui a des problèmes.
Ouais,
qu'est-ce qu'il fait, là? il va chercher. Je cherche un avocat pour se défendre, généralement, non pas contre un autre bipède, sauf dans un cas de divorce, là, mais contre une organisation. La plupart des gens aujourd'hui qui ont besoin d'un avocat, c'est pour se défendre face à une grosse organisation. Tu remarqueras ça.
Mm-hmm. C'est vrai.
Un employeur qui est forcément plus gros que toi, une banque,
quelqu'un qui a des moyens,
un réseau de transport. Un assureur, ben oui, garde. Un assureur, c'est le petit contre le gros. Fait que moi, c'est ce que je fais au quotidien.
OK. Puis là, la politique intervient où là-dedans? Et encore une fois, pourquoi?
Ben, c'est parce que...
Quand... Ben, on commence à comprendre entre les lignes, là, mais...
Ouais, non, mais la politique, c'est venu, ça, au début des années 2000. Parce que j'avais, pendant 25 ans, j'avais déjà 25 ans de pratique à l'époque, puis j'avais réclamé bien des choses, des changements à la loi sur l'assurance automobile, le fameux « no fault », l'amélioration du système judiciaire, faire en sorte qu'on ait moins de délais d'attente pour accéder à la justice, que ce soit plus facile pour les citoyens, que ce soit moins coûteux. Et puis, Charest écoutait ça, lui, puis ça lui plaisait. Il dit, on a besoin d'un gars comme toi, un porteur de ballon.
OK.
On parle de football, ça tombe bien.
Ben oui.
On a besoin d'un porteur de ballon. Ouais. Toi, tu connais tout ça, Marc, là, les systèmes de CSST, puis les systèmes de SAC, puis l'assurance auto.
Parce que les 25 ans de pratique, c'était parce que t'étais toujours beaucoup en droit du travail.
Ben, j'étais toujours... Je défendais des citoyens contre des organismes publics ou privés. Mmh. Les assureurs, la CSST, la Régie des rentes, l'aide sociale. Moi, je défendais des citoyens contre les grosses patentes. Les organismes publics, surtout, qui sont supposés être là pour nous autres, mais qui, dans le fond, quand c'est le temps, ils sont jamais là. Mmh. Ou ils ont toujours une bonne raison de pas payer. Alors, ça a été mon combat. Et là, les libéraux de Charest disaient, ben nous autres, on va les faire, ces changements-là. Alors moi, le grand naïf, j'ai cru ça. J'ai dit, c'est correct. J'embarque dans l'autobus. Mais une fois élu, ils s'y tentaient plus. Fait que, pour ça, je suis parti.
Ça a été ça, si tu veux. Ça a été comme la mauvaise surprise en cours de route.
Ouais, c'est ça.
À l'interne.
C'est ça. C'est que les victimes d'accidents, puis les malpris de la société, c'est toujours une clientèle sexée pour les partis politiques. Tu remarqueras, pendant les campagnes électorales, ils ont toujours quelque chose à offrir, monsieur, madame, les assistés sociaux, les rentiers, les aînés, les gens qui n'ont pas grand-chose, qui défendent beaucoup de l'État, on a toujours beaucoup de choses à leur promettre.
Okay.
Mais une fois l'élection passée, il n'y a plus personne qui en parle.
Là. C'est-tu le jeune contestataire qui organisait des manifs au cégep qui a dit au ministre avec ses beaux habits, « Hey, là, oublie pas ce que tu fais dans la vie, là. Oublie pas c'est... Pourquoi tu as décidé de faire ce que tu fais, là, tu sais?
Oui, mais je dirais que le côté contestataire, je l'ai toujours gardé. C'est comme inné. Ma mère, je tiens ça de ma mère qui était un peu comme ça. Elle avait pas beaucoup d'outils, mais elle avait beaucoup d'idées.
Okay.
Alors moi, j'ai moins d'idées, mais j'ai des outils. Alors, je m'en sers comme avocat. Pour moi, le fait d'être avocat, c'était de posséder un moyen. Pour moi, le droit, c'est un moyen, c'est un canal, c'est un transit vers une plus grande justice. Alors, l'avocat, il a les connaissances, il a supposément l'énergie, il y a la motivation pour pouvoir s'adresser à un juge qui peut changer le cours de ton histoire ou le cours de l'histoire d'un de certains citoyens. Alors, la politique, c'était comme un autre moyen. Sauf que je me suis aperçu que finalement, une promesse électorale, là, c'est un peu comme un char neuf. T'sais. Ça perd la moitié de sa valeur en première année. Alors, si tu réalises pas tes engagements électoraux dans la première année, tu les réaliseras pas dans les autres années.
Pour vrai, on pourrait faire une charte, là, un graphique.
Je suis convaincu. Parce que le courage politique, c'est l'élan de l'élection, surtout pour un nouveau parti, un nouveau gouvernement. Là, il y a un air d'aller, puis il y a beaucoup d'éléments dynamiques. Pendant la première année, puis là, tu déranges. Tu déranges des gens, puis là, il y a des chialeux, puis il y a des mouvements qui s'opposent à ce que tu as fait. Puis là, après ça, tu as 3 ans pour essayer de te faire pardonner, pour amadouer tout le monde, puis faire en sorte que, finalement, tu puisses aller chercher certains bénéfices dans la tête des citoyens qui vont finalement reconnaître que tu as peut-être fait un bon move. T'sais. Puis je pense que la CAQ, ça va être comme ça aussi.
Quand tu arrives public, parce que, tu sais, Marc Bellemare, avocat, tu as quand même quelqu'un dans sa communauté qui était connu, mais c'était pas les nouvelles TVA, puis ah ouais, le ministre de la Justice. Ouais, c'est quoi qui arrive au plan personnel? Quand tout à coup, on est là avec toujours des gens dans les médias qui nous surveillent, qui ont pris, vous avez dit tel mot, tel ci. Qu'est-ce que ça fait au plan personnel? Parce que c'est pas une petite différence avec
quand tu,
l'avant.
Quand, là, tu parles du moment où j'étais en politique?
Oui.
Ben, de se faire checker. C'est sûr que moi, j'avais beaucoup d'alliés dans les médias parce que j'étais un gars assez médiatisé. J'avais quand j'avais des combats ou des revendications, j'avais pas trop de misère à trouver un micro, là.
OK.
Maintenant, une fois arrivé en politique, les amis, t'en as moins, là, parce que là, t'es le target, là. T'es le gars qu'on cherche
à. Mais t'en as moins d'un côté, mais tout à coup, t'en cultives mieux de l'autre, non?
Ben, c'est-à-dire que dans les médias, c'est difficile, quand t'es politicien, de trouver des alliés dans les médias. Tu peux avoir des alliés de circonstances, tu sais, qui vont dire, OK, sors-moi telle nouvelle, puis si tu me donnes tel scoop, je vais faire une nouvelle, puis tu sens que la nouvelle est un peu meilleure que s'il l'avait appris autrement.
Okay.
Mais c'est pas des alliances aussi aussi fiables que quand t'es pas en politique, moi, je trouve.
OK.
Et puis, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de gens avec qui j'avais travaillé dans les médias pendant 10-15 ans avant d'être en politique. Puis une fois rendu en politique, là, t'es plus ça, là. Puis là, t'es le maudit libéral en plus, là. Puis l'autre est péquiste, là. Mm. Alors, moi, je n'étais pas un vrai libéral. Mes racines libérales étaient assez courtes, là. mais il reste que t'es avec un parti de Jean Charest, t'es avec les libéraux, t'es avec les Anglais, puis je pensais jamais que t'allais aller en politique dans ce parti-là. Puis okay. Là, c'est tout ça qui... ce qui fait en sorte que tu te retrouves un peu seul au bout de la ligne, là. Un peu beaucoup, là.
Ça fait que ça isole plus qu'on pense de tout à coup devenir public en tant que politicien.
Oui, ça isole beaucoup. Maintenant, si tu trouves quand même un avantage à y être parce que tu réussis à faire des réformes, où tu réussis à faire avancer le Québec sur certains aspects. Moi, c'est le côté judiciaire. Mais là, tu as une contrepartie. Puis là, tu dis, bon, c'est vrai que j'ai une vie de marde. C'est vrai que je peux moins sortir publiquement. C'est vrai que j'ai moins d'amis. C'est vrai que si, que ça. Puis c'est vrai que je vis dans un monde où les couteaux dans le dos, ça arrive presque au quotidien. Mais ma satisfaction, c'est de pouvoir réaliser des choses, faire avancer le Québec. Mm. J'avais pas cette impression-là.
Okay.
C'était comme tout du négatif. Fait qu'après un an, j'ai dit, bon, ben.
Est-ce que vous êtes senti utilisé?
Oui.
Par
oui.
La machine, par le...
Ben, par les libéraux, c'est sûr. Oui. Ah oui.
Comment ça s'est terminé? Comment vous avez signifié en vrai, là, comment vous partiez? Puis tout ça, est-ce que vous avez appelé le premier ministre? Oui,
ouais, je l'ai appris. J'ai fait livrer une lettre le matin. C'était le 27 avril 2004. Et puis, je l'ai rencontré à 4 heures. Puis, je lui ai dit que je m'en allais.
Est-ce que vous lui aviez dit pourquoi?
Ben oui, j'ai dit pourquoi, parce que j'ai dit on respecte rien de ce qu'on a promis. Puis moi, ben, je suis venu ici pour faire un certain nombre de choses. On m'a demandé d'écrire le programme du Parti libéral en matière de justice, ce que j'ai fait. Il y avait 21 pages. Je l'ai écrit de la première majuscule au point final. Puis j'ai dit voici ce qu'on fait. On a été élus là-dessus, puis on le fait pas. Puis je sais qu'on le fera jamais. Les changements que j'avais proposés, de raccourcir les délais de cour, de modifier les droits des accidentés de la route et ces choses-là. Alors, mais le problème, c'est que il faut comprendre qu'avant l'élection de 2003, les libéraux traînaient de la patte de façon significative. Alors moi, quand je me suis présenté en janvier 2003, les libéraux traînaient de la patte, là, je pense que c'est 17 points par rapport au PQ dans le vote francophone. Ça allait mal, très mal. Puis Landry se dirigea vers un autre gouvernement et peut-être majoritaire, Bernard Landry. Alors moi, j'ai été candidat dans ce contexte-là. Fait que Charest, il appréciait ça, lui. C'est vraiment un allié. Il vient avec moi, malgré le fait qu'on tire de la patte dans le vote francophone de façon significative. On n'allait pas être élu. Et à Québec, il fallait aller chercher la région de Québec, ce qu'on a obtenu, parce qu'on a eu presque tous les comtés. Il manquait, je pense, Taschereau avec Agnès Maltais, mais les autres, c'était tout libéral. Mais moi, je parlais aux gens ordinaires, de par ma formation puis ma pratique du droit avec les victimes et les citoyens laissés pour compte. Et du côté de la business, c'est Sam Hamad, qui était président de la Chambre de commerce, qui lui parlait aux gens d'affaires. Fait qu'il y avait comme là les deux vedettes, là.
Ouais.
Bellemare et Hamad. Mm-hmm. Puis ça a été un peu le train là, la locomotive qui a amené le parti.
On fait une petite pause. Ouais. Marc Bellemare, on est dans le trafic avec Marc Bellemare, avocat et ancien ministre de la Justice sous le gouvernement libéral. On est dans le trafic avec Marc Bellemare, avocat et ancien ministre de la Justice sous le gouvernement libéral. On avait une discussion pendant qu'on préparait l'émission, Marc, tout à l'heure, à propos du stress. Puis on se demandait, dans le fond, est-ce que Paul est stressé, Julie, est-ce qu'on est stressé, c'est quoi les critères de stress, etc. Mais sérieusement, quand on regarde ton parcours, encore aujourd'hui, avocat, tu l'étais, puis tu as été ministre de la Justice, donc tu n'as pas juste fait des manifestations dans la rue avec des pancartes.
C'est le fun pareil.
Ouais, non, j'en doute pas, mais je veux dire, c'est des jobs qui doivent venir avec un stress, d'où la question. Qu'est-ce que tu fais pour le limiter, ce stress-là, puis qu'est-ce qu'il cause, règle générale, chez toi? Qu'est-ce qui fait que tout à coup, tu es en mode plus stressé que dans une autre situation?
Ben, j'ai pas trop de problème avec le stress. Le stress, c'est quand tu vas pas assez vite, faut que tu vas trop vite.
Ah.
Tu fais du ski de fond, tu fais du vélo?
Je fais du vélo,
ouais. Ben, si tu fais du vélo avec quelqu'un qui va à 75 % de ta vitesse, tu vas stresser. Parce que là, t'es pas à ton beat. Si tu vas avec quelqu'un qui est à 150 % de ta vitesse, tu vas stresser aussi. Alors, l'important, c'est d'être à ton niveau, à ton rythme. Si t'es à ton rythme, t'es correct. Alors, le stress vient souvent des contraintes des gens qui t'amènent à aller trop vite ou pas assez vite.
C'est intéressant.
Dans n'importe quoi. Si tu es capable de contrôler ton beat, de gérer ton horaire, normalement, tu n'en as pas de stress ou tu en as moins. Mm. On a toujours un petit stress sain, là, ah ouais, qui fait que tu es vigilant, puis que tu es à ton affaire, puis que tu arrives à l'heure, puis que tu es
ouais,
capable d'anticiper, puis d'avoir une bonne séquence dans ta tête, puis d'être capable de réaliser un certain nombre d'étapes, là, d'anticiper. Mais en travaillant à mon compte comme avocat, c'est sûr qu'il y a moins de stress parce que je suis capable de, même si j'ai un boulot assez exigeant,
oui,
je suis capable de contrôler l'énergie puis de mettre l'énergie à bonne place.
Mais tu es en train de définir le stress par rapport à l'effet que les autres ont sur nous-mêmes.
Oui, parce que je pense que le stress vient beaucoup des autres. Parce que c'est eux qui vont de temps en temps exiger de toi que tu ralentisses par rapport à ton rythme naturel, ou qui vont te demander d'en faire plus. Et je pense que le stress, c'est beaucoup l'environnement. Parce que si tu es tout seul dans le bois, là, normalement, tu n'es pas trop stressé. Mais ouais, là, s'il y a quelqu'un qui se construit à côté de toi et qui t'enlève un heure de sommeil, mais là, il va te stresser. Alors, c'est souvent ça qui fait que tu es stressé. Si tu es capable de gérer ton temps, d'être dans ton bocal puis de gérer ton bocal, normalement, du stress, t'en as moins. Mais c'est sûr qu'en politique, tu contrôles pas grand-chose. C'est peut-être pour ça que tu vas en venir. En politique, tu contrôles pas grand-chose. C'est pas toi qui contrôles les lois qui sont adoptées par ton gouvernement. C'est pas toi qui contrôles l'agenda général. Et même si toi, tu as un ministère puis que tu gères X milliards de dollars puis que tu as X employés, il reste que au bout de la ligne, si tu as des ambitions puis que tu veux qu'il y ait des promesses électorales qui soient respectées, le plus vite possible, puis que ça se fait pas, ça devient anxiogène, pas à peu près.
OK. Ouais. Là, tu trouvais ça ordinaire.
Oui, c'est ça, parce que je me souviens, quand je suis parti, Philippe Couillard est venu me voir, puis il dit, toi, Marc, ton problème, c'est que tu avais un plan. Ah, j'ai dit, c'est un problème, avoir un plan.
C'est intéressant. C'est
il dit, oui, il dit, tu avais un plan. J'ai dit, toi, tu n'avais pas de plan, Philippe? Il dit, non, moi, j'avais pas de plan. Il dit, moi, je savais que j'allais gérer la moitié du Québec parce que la santé, c'était, dans le temps, c'était 35-40 milliards. Aujourd'hui, c'est 50 milliards. Il dit, je savais que j'allais à la santé, puis je savais que j'allais diriger pas mal d'affaires, mais je n'avais pas de plan particulier. Bon, ben, j'ai dit, moi, je pense qu'aller en politique, ça veut dire avoir un plan, avoir un projet. Moi, quand j'entends les politiciens qui disent, ah, moi, je suis en politique pour servir. Servir. C'est quoi ça? Fuck off, servir. Mm. Ça veut dire quoi, servir, ça? Ça veut dire, je vais être là pour aider si jamais on a besoin de moi. C'est pas ça, là. T'arrives avec un plan, une proposition, tu l'intègres dans un programme électoral, et une fois que l'élection est passée, puis que les électeurs t'ont donné 75, 76 députés, puis tu as une majorité, tu fais ce à quoi tu t'es engagé. Puis ça, pourquoi les Québécois veulent rien savoir de la politique aujourd'hui? C'est parce qu'ils voient bien qu'ils se font avoir, ils voient bien que les engagements électoraux ne sont pas respectés.
Mais en quoi c'est différent d'il y a 25 ans? Ou d'il y a 50 ans?
C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, je dis pas que c'était différent. Moi, je pense que des gouvernements qui ont vraiment respecté leurs engagements, tu as eu Lesage en 60. 62, il a fait une élection sur l'hydroélectricité, fallait le faire. Il a dit, moi, je vais aller chercher un mandat. Lévesque en 76, ça a été un gouvernement qui a respecté ses engagements. Au fédéral, je dirais Mulroney, je dirais Harper, qui ont été très respectueux de la parole donnée. En dehors de ça, on s'est fait avoir pas mal tout le temps, là. Tu sais, tu votes dans ta vie, là, combien de fois? Tu votes aux 4 ans, tu commences à 18 ans, tu vis jusqu'à 75. Ça veut dire que tu vas voter peut-être 12 fois au fédéral, puis 12 fois au provincial. C'est pas gros, là.
Mm-hmm.
Tu vas mettre ta croix 20 fois, 25 fois, puis si tu vis jusqu'à 75 ans, là.
Oui.
Puis peut-être qu'une élection ou deux, puis tu ne seras pas là, tu vas être parti en voyage ou tu n'auras pas le goût de voter, tout simplement. Mais il reste que la démocratie, ça se résume à peut-être une vingtaine de croix dans ta vie, là. Si tu te fais avoir 12 fois sur 20, là, peut-être que tu vas être un peu amer face au type de démocratie qu'on te propose, mais je pense que c'est un peu là où on en est. Puis c'est pour ça que les gens votent moins, parce qu'ils ont l'impression qu'ils votent pour un parti, puis qu'après ça, il y a plein de raisons pour ne pas réaliser les engagements.
Même si le mandat est jeune, est-ce que vous incluez le gouvernement de François Legault dans ces gouvernements qui ont tenu parole?
Bien, je pense qu'ils ont réalisé des choses, mais en matière de justice, le gouvernement Legault avait promis un registre des pédophiles.
Vrai.
On n'a pas entendu parler de ça depuis l'élection du 1er octobre. Ça me déçoit. J'aurais voulu au moins qu'on en parle un peu. Ils ont promis d'abolir le délai de poursuite de 3 ans contre les prêtres pédophiles. Tu sais, parce qu'il y a un délai de 3 ans pour les agressions sexuelles aujourd'hui au Québec. Alors, il y a des milliers de victimes qui ne peuvent pas poursuivre. On n'a pas entendu parler non plus. Il y a eu une réforme de l'IVAC, les victimes d'actes criminels. On n'a pas entendu parler non plus. Alors, en matière de justice, c'est sûr qu'on reste sur notre appétit. Par contre, ils ont réalisé des choses. La laïcité, je pense que c'est un pas en avant. Ils ont tenu tête sur un paquet d'affaires. Ils ont réussi quand même à pousser le Québec en avant, à mon avis, sur un paquet de sujets. Mais il va falloir qu'ils passent à l'ouvrage sur d'autres volets aussi, parce que ils ont promis beaucoup de choses. Alors, quand tu promets beaucoup, il faut que tu réalises beaucoup.
Tu t'intéresses, ça a l'air, aux arts visuels.
Oui.
Exemple. Toujours pas juste quand Julie fait de la gouache avec ses doigts, là, c'est plus que ça. Là.
Ben, il faudrait qu'elle mange ce qu'elle fait.
Elle est bonne, elle est bonne.
Ah, elle est bonne. Hein? Ben, ça m'intéresse. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les artistes. Ce sont des êtres libres. Qui fonctionne dans un régime, dans un cadre très ouvert, très libre. Il faut travailler fort pendant souvent 25, 30, 40, 50 ans avant d'avoir un minimum de reconnaissance. Et puis là, je parle des artistes en art visuel. Là. Puis j'ai toujours collectionné. Je le fais depuis une quarantaine d'années.
Ah oui? Des collections chez toi?
Oui, mais chez moi, j'achète des œuvres.
OK.
Ouais, des œuvres, surtout des artistes québécois. Des années, je dirais, 40 à 75. Là.
Parce que?
C'est la période. Parce que pour moi, ce sont des gens qui ont amené le Québec plus loin.
Okay.
Bordua, Refus Global, Riopel, Mousseau, Ferron. Pour moi, ce sont des artistes extraordinaires qui ont ils ont sorti le Québec de la grande noirceur, ils ont amené le Québec dans la modernité. Je comprends qu'ils
l'ont fait. Mais dans quelle proportion?
En art.
Par rapport aux politiciens de l'époque, par exemple, tu sais, ça reste quand même du monde qui faisait de la peinture. On pourrait, à la rigueur, diminuer leur impact. Manifestement, tu penses
autrement? Ben moi, je pense que les trois personnes qui ont vraiment construit le Québec moderne, là,
oui.
Si tu compares les années 50 aux années 70, là, il y a Paul-Émile Bourdieu, Refus Global, qui a dénoncé l'Église, la mainmise du clergé, de l'Église sur, et de la politique sur la liberté des gens. Qui gardait le Québec dans l'oppression, évidemment, dans ces années-là. Deuxième, je mettrais Maurice Richard.
Ah oui?
Qui a amené le Québec dans la modernité, qui a sorti les Québécois, puis qui les a amenés à...
Une fierté personnelle.
Absolument. Ah ouais. Les Québécois à sortir, à revendiquer, à s'exprimer, puis à pas avoir honte de ce qu'on était. Alors, Maurice Richard a fait quelque chose d'important à ce niveau-là, qui a été bien au-delà du sport, à mon avis, sur l'ego des Québécois.
Oui.
Puis Jean Lesage. Jean Lesage avec la Révolution tranquille qui a réussi, lui, à développer le Québec, mais au plan législatif, au plan des institutions, la Régie des rentes, l'assurance maladie, l'hydroélectricité.
Oui.
Parce qu'il fallait à un moment donné que cet élan-là se matérialise dans des lois, puis dans des systèmes, puis dans des institutions, dans des gouvernements. Puis ça, c'est Lesage qui a réussi à faire ça.
Marc,
je mettrais ces trois-là.
Je veux te remercier pour
puis
cette...
Marc Boilard, le quatrième.
Oui. Ah, c'est en train de... C'est pas encore reconnu, c'est comme tu disais tantôt. Tu as dit que ça prend un petit 40-50 ans.
Faut jamais lâcher.
On a un concours, Will d'Olive, que peut-être on va faire participer Marc. T'sais, c'est lui qui va trouver le...
OK, parfait. Bon, on donne des cadeaux. On a deux paires de billets à faire tirer pour le Pro-Am Gagné-Bergeron qui aura lieu le 8 août prochain avec une vingtaine de joueurs de la Ligue nationale de hockey. C'est chapeauté par Simon Gagné et Patrice Bergeron. Deux paires de billets à faire tirer. Qu'est-ce qu'on demande?
Marc, avec Simon Gagné, on pourrait demander un jeu de mots avec Gagné vu que c'est pour des billets. Qu'est-ce que t'en penses? 25-2-2-6?
Ouais.
On fait ça. Vois-tu, les gars, j'ai parfait. L'aval de Marc Bellemare, ça peut être juste un concours extrêmement bright. Donc, faites-moi un jeu de mots avec gagner pour avoir les deux billets. Donc, pour les gagner, les deux billets que tu proposes.
C'est même
proposes.
Deux paires de billets. Donc, quatre billets. Deux gagnants, on fait? Ou?
Exactement.
Deux gagnants.
Ah, c'est ça, Aubert de la Lune? Deux gagnants, oui. Voilà. Merci beaucoup, Marc Bellemare. Très, très
intéressant. Ça me fait plaisir.
Oui, franchement.
Alors, je reviens demain, c'est ça?
C'est demain, oui. C'est 5 heures. De 5 heures à 6 et demi, même. Okay. On va se faire en 90 minutes. Merci tout le monde. Merci Julie. Merci Paul. Merci Will Dolly.
Bravo.
Bravo, Bert de la Lune. Salut, Alex. Soyez-y dès demain à 14 heures, mesdames, messieurs.